Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est le coup d'envoi du Festival de Cannes qui a été donné. Alors nous n'y sommes pas encore, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas Sophia? On a déjà notre hébergement, et le lit est presque chaud. Mais sans être sur la croisette, nous avons pu voir le film qui a fait l'ouverture, à savoir le deuxième acte de Quentin Dupieux, un film qui n'a tout bonnement rien à voir avec la sélection de la 77e édition, dont je vous parlerai un tout petit peu. Mais les films dont nous allons parler majoritairement aujourd'hui ne sont pas cannois. Alors toi Sophia, ce sont deux films.
Oui, deux films qui sont déjà au cinéma, un western, celui de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, et une comédie japonaise, Comme un lundi.
Et puis toi, Guillaume, alors c'est un film qui est sorti pour être éclipsé par le Festival de Cannes.
Alors éclipsé, ou peut-être c'est à propos, hein, on va le voir quand je vais vous parler donc de The Palace de Roman Polanski.
Et toi Manu, c'est un film important?
C'est le nouveau La Planète des Singes, donc La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume.
Allez, on fait un petit point sur Cannes et on parle du film de Quentin Dupieux.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
C'est donc parti pour la 77e édition du Festival de Cannes. Alors, peu de choses à dire encore, hein, si ce n'est que le festival, comme il le fait déjà depuis quelques années, a voulu faire de la place aux femmes avec une palme d'or remise à Meryl Streep. Et puis, Greta Gerwig, qui a été désignée donc présidente du jury. Mais parmi les films attendus, peu de films quand même réalisés par des femmes sont cités. C'est de toute façon le Mégalopolis de Coppola qui est le plus attendu et de loin. J'avoue que moi, j'attends encore beaucoup des valeurs sûres, hein, comme Yorgos Lanthimos ou Cronenberg ou Le Limonov de Kirill Serebrennikov. Plus que L'amour ouf de Gilles Lelouch. Mais parlons avant tout du film d'ouverture, le 13e film de Quentin Dupieux, le deuxième acte qui est visible maintenant partout dans le pays. Comme à son habitude, Dupieux a fait court, hein, le film avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quénard affiche 1h20. Dupieux a toujours peur de s'ennuyer et puis aussi d'ennuyer son public. Et après son Yannick qui fut la surprise de l'été 2023 et qui, souvenez-vous, montrait un spectateur mécontent de la pièce de boulevard qu'il était en train de voir et qui prenait les acteurs en otage, eh bien, dans deuxième acte, nous voilà sur le tournage d'un film d'auteur avec des comédiens qui nous semblent jouer leur propre rôle. C'est ainsi le film dans le film, un film méta qui montre un tournage mais sans en montrer la fabrication. Seul compte le jeu. Le réalisateur français ne lésine pas. Par duo, les comédiens nous offrent des plans séquences en travelling arrière de plus de 10 minutes, d'où émergent leurs caractères, un Raphaël Quénard impulsif, un Louis Garrel précautionneux, un Vincent Lindon préoccupé par le monde qui va mal et une Léa Seydoux déconnectée du réel. Dupieux tire le trait jusqu'à la caricature des acteurs qu'il a engagés et c'est extrêmement jouissif.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Ah, non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important. Et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi. Non, mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non, mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
Point névralgique de ce ballet d'ego, un figurant qui ne parvient pas à jouer la scène pourtant simple hein, qu'il a exécutée, il doit juste servir du vin. Moment comique mais pivot d'un film qui, comme Yannick, semble injecter une dimension sociale. Ce personnage est le seul à avoir une dimension dramatique, c'est lui qui va accorder la fiction et la réalité, distinction avec laquelle s'amuse Dupieux jusqu'à nous l'exposer avec Louis Garrel inversant les deux notions pour mieux coucher avec Léa Seydoux. La palme de la drôlerie revient d'ailleurs au personnage hein, de l'actrice qui ne trouve aucun réconfort réconfort chez sa mère comme chez sa fille. On rit jusqu'à la fin, hein, où le rire s'efface pour laisser place à ce qui est habituellement le hors-champ de la fiction, comme les rails d'un travelling qui a servi à faire le film qu'on a vu. La boucle est bouclée. Deuxième acte, film drôle et délicieux, est en salle depuis le 15 mai. Alors, on va quitter Cannes et on va maintenant parler eh bien, du second film de Viggo Mortensen. C'est un western. Sophia, tu nous parles de Jusqu'au bout du monde.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Alors, d'où est-ce que vous venez?
Ça, c'est une longue histoire.
Ça tombe bien, j'ai tout mon temps.
On connaît plus Viggo Mortensen sur l'écran que derrière. L'acteur aux multiples talents a tout de même déjà fait ses premiers pas derrière la caméra il y a 3 ans avec Falling, un premier long métrage sur le rapport au père dans lequel il avait un des rôles principaux à l'écran. Avec Jusqu'au bout du monde, il revêt à nouveau cette double voire triple casquette acteur, réalisateur, scénariste. Mais le genre choisi pour ce second long métrage peut surprendre puisqu'il s'agit en effet d'un western. On retrouve dans Jusqu'au bout du monde tous les tropes de ce genre qui est considéré pour certains comme le premier genre cinématographique identifiable de l'histoire du cinéma, caractérisé par des bandits et justiciers à cheval s'affrontant en cavalcade rocambolesque dans des paysages vastes, sauvages et austères, ceux de l'Ouest américain, où règne la loi des Colts, du plus fort et de l'honneur. Un genre qui a connu un âge d'or dans les années 60 aux États-Unis et qui a eu beaucoup de déclinaisons du cinéma de John Ford en passant par Sergio Leone, puis celui de Clint Eastwood, les versions européennes non moins notables et autres revivals plus récents, si l'on pense au True Grit des Coen par exemple, ou plus surprenant encore au film bulgare de Valeska Grisbach en 2017, intitulé Western, qui revisitait complètement le genre en l'inscrivant dans un contexte contemporain. Alors voilà, comment Viggo Mortensen se saisit-il du genre pour proposer un film héritier d'un tel patrimoine? Eh bien, à mon sens, avec un peu moins d'originalité que dans les quelques exemples cités.
C'est ici.
Le bout du monde.
On dirait un repère de bandits.
Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester.
Foutaise. Je cherche un emploi.
Adjugé.
Pourquoi?
J'adore travailler et gagner mon propre argent.
On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union.
Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays.
Je veux faire ce qui est juste.
On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début.
Dès le début du film, Holger Olsen, un charpentier d'origine danoise joué par Mortensen, interne une personne que l'on comprend être sa compagne, Vivienne Lecoudy, incarnée par Vicky Krieps, une fleuriste d'origine québécoise. Le film se construit dès lors sur une structure décousue entre ce présent où une vengeance se prépare et un passé composé d'ellipses temporelles plus ou moins longues et lointaines, des flashbacks qui remontent à la rencontre entre Olsen et Vivienne, au développement de leur romance un peu sèche, menant très vite les deux immigrés à emménager ensemble au fin fond du Nevada dans la maison d'Olsen. D'autres flashbacks, eux, remontent carrément à l'enfance de Vivienne au Québec et permettent de développer une backstory à base de petites princesses des forêts et pro-chevaliers, un brin onirique. En tout cas, tout cela participe à faire de Vivienne le personnage central du film, si bien que lorsque la guerre de sécession éclate et Colson s'engage et part au combat, on reste à la maison avec Vivienne dans cette petite ville aride d'Elk Flats. Le personnage d'Olsen disparaît totalement et on affronte la violence écrasante du monde local à travers ce scope féminin. La prestation de Vicky Krieps dans ce rôle de femme forte, patiente et résiliente est plutôt remarquable, mais son rôle n'est certainement pas aussi féministe qu'il y paraît et moins convaincante que, par exemple, la Joan Crawford du Johnny Guitar de Nicholas Ray. Assurément, en dépit d'un scénario un peu décevant, le film peut plaire par sa qualité plastique. Le choix du cinémascope offre des plans larges, sublimés par une prise de vue avec focale courte qui restitue au maximum l'immensité des espaces naturel. Hommage au cinéma classique américain, les amateurs du genre seront peut-être plus séduits que moi par l'attention presque nostalgique portée au territoire sauvage d'une Amérique pourtant déjà conquise.
Eh bien merci Sophia, on sent que tu ne l'as pas tout à fait aimé, mais tu le ferais presque apprécier aux auditeurs. Donc nous parlions de Jusqu'au bout du monde, film de Viggo Mortensen. Quatrième opus d'une des meilleures, sinon la meilleure saga actuelle, nous parlons de La planète des singes, le nouveau royaume.
Non mais bon, de toute façon ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Les singes, traque, les humains. Ce n'est pas juste.
Alors autant rassurer les auditeurs, hein, il n'est pas utile d'avoir vu la trilogie précédente hein, pour apprécier le nouvel opus d'une franchise qui en est à son 10e épisode depuis le premier réalisé en 68 par Franklin J. Schneffer. On nous rappelle toutefois l'existence et l'importance de César afin d'ancrer un récit situé de plusieurs générations après son règne. À une époque indéfinie, les singes ont définitivement pris le pouvoir, les humains réduits à l'état sauvage sont en voie d'extinction, un nouveau chef tyrannique et belliqueux, Proximus, étend son pouvoir par la force, reproduisant ainsi les erreurs des hommes. Un jeune singe, Noah, entreprend un voyage périlleux pour délivrer les siens prisonniers de Proximus. Cette odyssée va l'amener à questionner son passé et à réviser ses positions sur l'être humain dès lors qu'il rencontre une jeune femme qui a l'air plus évoluée qu'elle ne le laisse paraître au départ.
Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses.
Noah !
Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi, j'apprendrai. Je vais conquérir le monde.
Sans être déshonorant, hein, la planète des singes, le nouveau royaume, pâtit d'un scénario simpliste qui a bien du mal à planter des enjeux forts et un impact émotionnel. Le démarrage est même laborieux, à la fois confus et très explicatif, beaucoup trop long en tout cas, si vous avez en tête les épisodes précédents. Alors c'est d'autant plus dommage que Wes Ball déploie un savoir-faire visuel qui fait plutôt du bien dans le cadre d'une grosse production hollywoodienne. Ce savoir-faire est le résultat d'un travail d'équipe, hein, la photographie est très belle, le découpage fluide et surtout les effets spéciaux sont d'une précision sidérante permettant d'accepter la réalité de ces singes en numérique. La complexité des opus précédents laisse place à une histoire de rivalité entre un singe humaniste et un autre belliqueux, avec au centre une réflexion déjà vue et finalement assez peu intéressante sur les rapports homme-singe, conflit philosophique d'une extrême pauvreté en termes d'idées. Alors le choix aussi de prendre une actrice jeune, vraiment avec une plastique irréprochable, prête un peu à sourire même dans le cadre d'un blockbuster. Mais surtout, le personnage de cette humaine ne colle pas, trop flou pour être crédible. Elle semble même provenir d'un autre film parce que les scénaristes n'ont pas réussi à la caractériser, à l'intégrer dans le récit. Les raisons de son comportement civilisé arrivent aussi bien trop tard pour convaincre. Et quand elle commet un acte répréhensible, aussi surprenant soit-il, on peine à y croire. Alors malgré toutes ses réserves, son manque d'originalité et puis ses grosses faiblesses narratives, le nouveau royaume reste un divertissement honnête dans l'exécution et la démarche, un agréable livre d'images doté de quelques scènes d'action possédant un vrai souffle épique qui enterre, je dirais, à peu près beaucoup de grosses productions actuelles, malgré tout. C'est pas très réussi, mais c'est quand même regardable.
C'est clair. Alors surtout, il est vraiment un cran dessous des trois premiers, notamment les deux de Matt Reeves, ça c'est sûr. Et moi, alors il se trouve que j'étais sans doute un des premiers spectateurs, il était 10h20 quand je l'ai vu en IMAX, et j'avoue que le début était extrêmement lent, c'est très explicatif comme tu le dis, c'est extrêmement bavard.
J'ai piqué du nez un peu au début même,
et ça c'était très étonnant parce qu'on se dit mais où est l'action finalement? Alors il n'y a pas de combat au sens de ce qu'on pouvait voir dans les précédents opus, mais alors il y a de l'action, mais elle est disséminée un peu partout comme ça, sauf...
C'est pas très grave, mais je crois que c'est mal géré par la construction, parce que pas d'action, c'est pas très grave, mais ce qu'il raconte n'est pas très intéressant non plus, n'est pas très nouveau.
Disons que c'est philosophiquement c'est ras des pâquerettes, mais on est quand même dans une civilisation où les hommes ont perdu la voix, enfin ont perdu une partie de l'intelligence et les singes gouvernent. Donc le scénario est aussi simple que ça aussi, notons-le. À noter quand même le live motion qui est vraiment une superbe réussite, comme dans les précédents, mais là j'ai l'impression que c'est encore mieux, c'est parce qu'en plus ils sont dans un environnement qui est alors un peu naturel, mais en même temps c'est la végétation qui a pris le dessus sur la civilisation. Enfin, il y a un peu ce petit élan. Enfin voilà.
Il y avait matière pour faire un film très supérieur au résultat.
Peut-être.
Il est beaucoup trop long. Le récit tient en 1h20 quoi, et pas 2h25.
Mais bon, ça reste quand même parmi les blockbusters quand même quelque chose à voir. La planète des singes, le nouveau royaume en salle depuis le 8 mai. Le film ne trouvait pas de distributeur en France jusqu'à ce que quelqu'un se dévoue. Il est enfin sorti de Palace de Roman Polanski.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Peut-on regarder aujourd'hui de manière sereine un film de Roman Polanski ? Alors, ce n'est bien sûr pas le sujet littéral du film dont il est question aujourd'hui, hein, mais on peut forcément pas s'empêcher d'y penser, hein, au vu de ce qu'il raconte. Alors, The Palace met en scène une soirée supposément idéale, hein, celle d'un passage d'une année à une autre, hein, en une Saint-Sylvestre luxurieuse, hein, car se passant dans un palace, mais ce n'est pas n'importe quel réveillon, c'est celui du passage à l'an 2000. Alors, l'an 2000 sera bien sûr l'époque de la disgrâce de Polanski, et The Palace montrant une société bien propre sur elle, cherchant constamment un bouc émissaire pour cacher ses propres tares, on peut donc se poser la question de la dimension métaphorique insufflée par son auteur. J'ajouterais même qu'il y a un coup de génie de la part du distributeur français qui programme la sortie du film pile au moment du lancement du Festival de Cannes, en savant effet de miroir, et ce même si le film s'est fait descendre en flammes depuis sa diffusion à la Mostra de Venise.
Je ne suis pas un vétérinaire, Marquise, mais je suis presque certain que Mr. Toby a des vers.
Non! Mais ça, c'est grave.
Ne vous inquiétez pas, c'est courant chez les chiens. Les miens l'ont eu aussi. J'ai prescrit un remède contre les parasites. Il faut donner à Mr. Toby tout de suite.
Mais il ne va pas mourir.
Mais bien sûr que non.
Ah, Dieu merci.
Il y a quand même un petit problème. J'ai bien peur que vous partagiez cette affliction.
J'ai des vers.
C'est une possibilité, oui.
Mais des vers dans mon corps.
J'en serais certain, une fois, j'aurais vu les échantillons de vos selles.
De mes quoi ?
De vos selles.
Précisons que c'est un des rares extraits en français, entièrement en français, parce que c'est Fanny Ardant que l'on entend, et cette séquence sur le caca dure un certain moment.
Oui, un extrait curieux justement d'un film curieux. Alors, essayons d'analyser. Hein. Donc, The Palace doit son horrible réputation, d'une part, bien sûr, à cause du procès intenté à Polanski, qui veut que d'homme montré du doigt ne puisse plus faire d'œuvre d'art pertinente ou tout simplement digne d'un véritable regard critique et d'intérêt, mais aussi parce que c'est une comédie qui a une drôle de forme pour une comédie et qui, je pense, doit énormément aux origines de ses géniteurs. Et oui, bien malin, hein, celui qui saura aujourd'hui regarder un film pour ce qu'il propose et non pas d'après les moules sciemment employés par l'industrie pour formater les attentes des spectateurs placides. The Palace ne ressemble effectivement pas à l'idée qu'on se fait de la comédie à l'heure actuelle, il le sait, et en plus s'en fiche, hein, au point de ne jamais se soucier de mettre de côté une partie de son public. Alors le film de Polanski doit autant à Polanski, hein, réalisateur et auteur, qu'à son co-scénariste, lui aussi polonais, Jerzy Skolimowski, l'auteur du bateau phare de Essential Killing et de EO, hein, fait également monter dans le navire sa fidèle plume Eva Piaskova et à eux trois achèvent de donner la tonalité si particulière à cette histoire dont le traitement rappelle les comédies tchécoslovaques de Miloš Forman comme Au feu les pompiers qui mettait lui aussi en scène une soirée événementielle qui tournait au vinaigre en révélant la bêtise et la bassesse d'un condensé d'une population donnée. C'est en cela que The Palace est véritablement intéressant et montre peut-être que dans ce qui risque d'être son dernier film, Polanski opère une sorte de retour au cinéma de ses origines tout en continuant d'explorer certaines de ses thématiques, de sa convocation d'une société consanguine, méphitique et démoniaque comme celle du Bal des Vampires, Le Pianiste ou Oliver Twist, à une étude de caractère en vase clos comme dans Répulsion, Le Locataire, Carnage ou La Vénus à la fourrure. Est-ce que ça en fait un bon film ? Pas toujours, il faut bien l'admettre. Hein. Plusieurs fois, on se dit que le réalisateur pourrait aller bien plus loin dans la méchanceté, et quitte à faire grincer des dents, autant pousser tous les potards à fond pour faire exploser la marmite. Alors, il ne fait malheureusement pas grand-chose de la date fatidique du passage à l'an 2000, mais les quelques bribes dont il s'empare savent faire très mal. Alors, parmi les occupants de cet hôtel, il y a une troupe de Russes qui découvre stupéfait que le pouvoir passe en ce dernier jour de l'année entre les mains d'un Vladimir Poutine qui assure que l'avenir de son pays est promis à de belles choses. Cette utilisation d'images d'archives jamais explicitées dans le développement ultérieur du film font bien évidemment froid dans le dos et semblent montrer que Polanski, grand témoin de l'horreur du nazisme et rescapé de l'Holocauste lorsqu'il fut très jeune, n'a jamais refermé cette page traumatisante de son histoire et met en garde le monde sur ce qui l'attend dans ce 21e siècle ouvert aux plus sanglantes formes de totalitarisme qui ne fait dans son film que dévoiler ses premiers instants. Alors s'il quitte le monde du cinéma avec ce dernier titre, prions pour que cette vision désenchantée d'un édifice prestigieux qui se souille dans la joie et la bonne humeur alors que les germes de la destruction sont plantés démocratiquement, comme en 1933, mais ne donne pas naissance à une nouvelle 1939 hein, de façon plus générale, et que ce rescapé de la barbarie n'est pas documenté à l'hiver de sa vie, ce qui fut ben, le sanglant printemps de sa jeunesse, bouclant ainsi la plus noire des boucles. Ben, rien n'est actuellement moins sûr quand on voit l'actualité.
En tout cas, moi je l'ai vu ce film, je n'ai absolument pas été convaincu. Je trouve qu'il est complètement à contre-courant. Enfin, c'est-à-dire que s'il veut, alors c'est ce qu'il montre, hein, c'est une critique acerbe des puissants, enfin, et ainsi de suite, et des excentriques, et ainsi de suite, dans un palace où il n'y a que des riches. Mais il est complètement à contre-courant parce que Östlund le fait très bien, enfin, le fait différemment, et il est très actuel. Alors que là, tu fais référence.
Sur Östlund que je trouve peut-être très superficiel. Je pense que c'est de la fausse superficialité crasse chez Polanski, et c'est ce qui en fait un film, je pense, pas du tout génial, ni même forcément très bon, mais assez pertinent dans son côté acerbe. Et surtout qu'il a une très belle mise en scène.
Peut-être la mise en scène, mais il y a vraiment des situations qui sont, je trouve, insupportables. Et tu fais référence à Milos Forman, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin, parce que ce film a l'air extrêmement vieux. Enfin, c'est ça qui est très frappant aussi. Enfin, tout est moche. Je veux dire, véritablement.
Je trouve pas. Par contre, oui, il dépeint une société moche. Donc forcément, il y a un côté crasse qui en ressort. Et je pense qu'à son âge, il a quand même 90 ans. Hein. Mm-hmm. Il l'a fait de manière frontale.
En tout cas, j'ai été très surpris de m'apercevoir que c'était Polanski qui...
Ça, par contre, oui, vous trancherez si vous voulez aller le voir, bien sûr, mais c'est, ça a au moins le mérite d'être super surprenant, en fait.
Ah oui, ça c'est sûr. The Palace de Roman Polanski est donc en salle depuis le 15 mai. Un esprit démoniaque a élu domicile dans le corps purulent d'un homme, Wayne Evil Lursk.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Il y a un incarné dans la ville.
Tu fais peur à ma famille.
Petite sensation au dernier festival de Gérard Mer, ayant raflé le prix de la critique et du public, Wayne Evil Lursk bénéficie d'une aura très positive. Alors, sa réputation flatteuse est-elle méritée ? Au regard de son début fracassant, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Dès les premières images, baignant dans une lumière crépusculaire, évoquant un peu une sorte de fin du monde, le film immerge le spectateur dans une atmosphère déliquescente et poisseuse, pleine de pus et de sang qui tâche lors du premier cadavre mutilé découvert par deux frères au centre de cette sombre histoire. Pedro et Jimmy apprennent que les événements tragiques causés dans leur village sont liés à un esprit démoniaque qui a pris possession du corps purulent d'un homme. Attention, la découverte de ce personnage peut provoquer des haut-le-cœur. Le mal dont il souffre ne tarde pas à se répandre comme un virus affectant les habitants de la région. L'entrée en matière, alliée à un postulat radical, n'est pas sans rappeler celui de Prince des Ténèbres de Carpenter. Alors de quoi satisfaire pleinement l'amateur de films d'horreur premier degré et viscéral, d'autant que Demian Rugna, déjà remarqué pour son précédent long-métrage sur un sujet voisin, à Terrados, fait preuve d'un réel talent de cinéaste. La mise en scène, avec son scope écrasant et ses plans larges oppressants, installe une ambiance très réussie qui met en valeur les paysages magnifiques de l'Argentine.
Je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais avec lui!
Ça va devenir un véritable enfer.
On doit trouver la bête avant qu'elle ne vienne au monde.
Hélas, il faut vite déchanter devant un récit qui se délite sous nos propres yeux, qui semble inventer des règles au fur et à mesure juste pour faire avancer le film. La méchanceté et la brutalité de Wayne Evil Lursk se heurtent à une succession d'invraisemblances qui amoindrit l'ambition d'une œuvre qui se voudrait ultime sur le mal et sa contamination dans tous les recoins du cadre, s'en prenant d'ailleurs de façon sadique aux enfants, pas plus épargnés que les autres. Mais lorsqu'on ne cesse d'énoncer les règles aux protagonistes et qu'on les supplie de ne pas commettre tel ou tel acte et que systématiquement, ils plongent tête baissée dans ce qu'il ne faut pas faire, ça ne fonctionne pas. Très supérieur quand même à la moyenne des productions horrifiques américaines actuelles. Wayne Evil Lursk n'a donc pas toujours les moyens de ses ambitions. La faute à une écriture bancale et aussi à une interprétation pénible de comédiens qui ne cessent de hurler du début à la fin. Alors les comédiens sont toujours sur le même registre de la tension sans aucune nuance. Alors de plus, le film est inutilement bavard, comme si Damian Rugna ne parvenait pas à se faire confiance. Il est doué, sait maintenir une tension à travers un univers visuel cohérent et terrifiant, alternant efficacement violence hors champ et représentation frontale des corps maltraités et mutilés. Mais encore, faut-il habiter cet univers avec un scénario au minimum réfléchi à défaut d'être lisible. On peut rester cryptique et dans l'ambiguïté. Par contre, changer de direction tous les quarts d'heure et inventer sous nos yeux de nouveaux enjeux sortis du chapeau reste plus difficile à avaler. Alors reste une série B pas fine et bien rentre-dedans et quand même regardable, qu'on imagine réalisée par un gros métalleux, alors qu'on a voulu quand même nous vendre un film d'horreur plutôt subtil.
Wayne Evil Lursk est en salle depuis le 15 mai. Une histoire de boucle temporelle contraint des employés à revivre chaque lundi. Nous parlons de Comme un lundi, film japonais.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Il s'agit d'un premier film pour le cinéaste japonais Ryo Takebayashi et la scénariste Sairi Natsuo, qui livre une comédie drôle et émouvante en basant l'intrigue sur un concept que l'on connaît bien. Yoshikawa, une chef de projet dans une petite agence publicitaire tokyoïte, se réveille un lundi matin au bureau où elle et tous ses collègues ont passé la nuit pour venir à bout d'une interminable charrette sur un projet de promotion de cubes de soupe miso effervescent. Deux collègues parviennent à faire conscientiser à Yoshikawa qu'ils sont en fait bloqués dans une boucle temporelle et qu'ils ne cessent de revivre la même semaine sur le même projet dans ce même open space. De semaine en semaine, ils vont ainsi commencer à unir leurs forces pour déjouer cette malédiction.
Kidaoshin-des.
Impossible de ne pas penser et de ne pas comparer fatalement n'importe quel film qui se saisirait de ce concept de boucle temporelle au plus classique et populaire d'entre eux, à savoir Un jour sans fin de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell. Cette comédie de 93 représente certainement l'incarnation du genre dans notre inconscient collectif. D'ailleurs, un des employés dans le film, un cinéphile complotiste, n'hésite pas à y faire littéralement référence, comme on le ferait peut-être tous si on se retrouvait dans une telle situation. On pourrait penser aussi à des réalisations plus récentes, telles que Edge of Tomorrow, dans lequel Doug Liman faisait revivre en boucle à Tom Cruise la mort de son personnage, ou plus récemment, dans un registre comique, la rom-com indé Palm Springs, présentée à Sundance en 2020, qui renouvelait malicieusement ce concept de boucle temporelle, dont la mécanique est bien connue du public. Car qui dit boucle temporelle ou boucle de causalité dit quête d'une issue. Comme un lundi n'y échappe pas, le scénario se construit donc autour de cette recherche salvatrice. Il faut déjouer la cause à l'origine de la répétition de cette malheureuse semaine d'octobre. Pour Yoshikawa, la protagoniste centrale du film, c'est la pire semaine de sa vie. Dépassée par la charge de travail, les requêtes incessantes des clients et leurs deadlines irréalistes, une future embauche dans une boîte d'envergure auprès de laquelle elle doit faire ses preuves et un petit ami, dommage collatéral qui, à force d'être négligé par l'obsession pour le labeur de celle-ci et son ambition, finit par vouloir prendre ses distances. La première partie du film prend des allures de film de casse. Les salarymen and women élaborent un plan, convaincre petit à petit dans l'ordre les différents membres de la hiérarchie de ce qu'il se passe dans l'entreprise. On suit donc leurs avancées dans l'exécution de leur stratégie pour aboutir non pas à un vol mais à la destruction de ce qu'ils pensent être à l'origine de la malédiction par celui qu'ils voient comme le héros de leur histoire, leur chef. Alors chacun des personnages arbore des traits de caractère et intérêts qui permettent le développement de sketchs humoristiques aussi absurdes que drôles, particulièrement lorsque Yoshikawa tente de convaincre son supérieur direct, fan de J-pop, et que le bureau se transforme en véritable club de karaoké. Cette succession de scénettes permet d'identifier dans ce long métrage les codes des sitcoms. Et on a presque l'impression de reconnaître dans le personnage du chef le profil si particulier, enthousiaste et extravagant de Steve Carell incarnant Michael Scott dans la série The Office. La petite agence de pub japonaise s'illustre presque comme la fabrique de papier pennsylvanienne d'Under Mifflin, mais complètement sous stéroïdes. Cet effet dopé se retrouve dans la répétition ad nauseam des moindres petits gestes, échanges et événements de la semaine. Magnifié par un montage ingénieux et dynamique, le film questionne ainsi la notion de répétitivité et d'aliénation au travail qui se décline en véritable abnégation sacrificielle dans ce genre d'environnement professionnel au Japon. C'est ainsi que le film se fait la satire du monde du travail, d'une quête productiviste nippone qui pousse les salariés à l'épuisement dans un pays où il n'y a pas de limite légale au temps de travail et qui glorifie ce qu'on appelle la hustle culture, qu'on pourrait traduire par culture de l'effort ou encore la culture capitaliste du travailler dur. Au Japon, il existe d'ailleurs un mot pour désigner la mort due au surmenage au travail, karoshi. C'est le ministère du Travail qui a reconnu d'ailleurs qu'il y a deux types de karoshi, la mort par maladie cardiovasculaire liée au surmenage et le suicide comme issue à la détresse mentale et au stress causé par le travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la critique sociale du rapport au travail toxique développé par le film aussi dans un relais narratif à l'intérieur même du film, dans le manga écrit par le chef. Finalement, bien que très émouvante, la seconde partie du film, s'appuyant sur ce manga, transforme un peu le long métrage en un conte moral, ou du moins en un éloge du collectif. On peut regretter que la tendance sacrificielle décriée dans le rapport au travail en première partie est tout d'un coup louée lorsqu'elle sert au groupe, comme si tout individualisme devait s'effacer au profit d'un commun composé d'individus maillons. Pas étonnant, cela dit, pour la société nippone où prévaut le principe de solidarité. Tu as vu également le film, Manu, est-ce que tu aimerais en dire un mot ?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Je trouve que c'est une fable morale très drôle sur finalement une fille qui va s'ouvrir aux autres, une fille qui est au départ très égoïste et qui va petit à petit s'ouvrir aux autres. Oui. Et c'est elle, la véritable héroïne du film, finalement.
Oui.
Comme un lundi est en salle depuis le 8 mai.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, on se retrouve, nous serons, une partie de l'équipe sera à Cannes, donc on vous parlera du festival évidemment, mais on piochera aussi bien des chroniques de films qui sont en salle. À la semaine prochaine.